Deuxième partie. Chapitre 6. Les manœuvres de Madame Sébastien. Les jours avaient fui, se tenant par la main en leur ronde incessante, le chapelet infini dont les grains vont 7 par 7, coulant vite sous les doigts de l'année, glissait vers les jours transparents et paisibles de septembre, d'octobre, vers les semaines dorées et bleues, vers les rouges couchants du lent automne. Et les gens disaient « Comme l'été a passé vite !» et se sentaient un peu tristes après avoir prononcé cette chose banale. Car toutes les réalités profondes, poignantes, la vie, la mort, le temps, sont d'éternelles banalités. Laurent Mestru trouvait aussi que l'été avait passé vite et qu'il ne laissait rien derrière lui, sinon des récoltes dans les granges de son père, du jeune bétail à élever ou à vendre et l'argent superflu qu'on avait mis à la banque. Élie Mestru n'avait plus parlé de mariage à son fils, était même, semblait-il, devenu plus laconique pendant les repas et dans les courts trajets que les deux hommes faisaient ensemble pour aller au champ. Se devinant un peu, mais ne se pénétrant point malgré leur affection mutuelle, le père et le fils pensaient l'un à l'autre, tristes, obstinés, amers, sans que rien en parût dans leur conduite. Laurent se disait « Ma jeunesse s'en va, je la regarde s'en aller, et moi, je suis acculé dans une impasse. Je ne veux pas quitter mon père, il n'a que moi. Il en a assez de son grand chagrin, celui qui dure encore. » Mais quelle jeune femme consentirait à vivre dans notre misérable maison? Misère de riche, misère d'avare, dirait-on. Nous sommes la risée du pays, on nous tient pour des toqués. Il faudrait tout changer de fond en comble. Ce qu'il nous faudrait, c'est un incendie. Cependant, il ne perdait pas l'espérance. Sa crainte la plus douloureuse, celle qui lui crispait le cœur à l'arrêter de battre, par moments, c'était que Rosanne ne se lassât d'attendre. De son côté, Élie Mestru souffrait, mais sans vouloir formuler sa souffrance en mots ou en pensées précises. Un travail de désintégration s'opérait dans la carapace pétrifiée qu'il emboîtait. Certaines habitudes d'esprit tombaient par morceaux, laissant des trous à la place et du malaise, de l'inquiétude, des impatiences. La vue des décrépitudes de la maison commençait à le troubler, mais la vieille inertie pesait sur ses épaules. Il était plus malheureux que l'année d'avant, où il pensait seulement « La baraque durera autant que moi. Ensuite, Laurent fera ce qu'il voudra. » Car il pensait à présent « un jeune ménage. Laurence, tu n'es resté qu'un an avec moi. Sans toi, la vie ne m'était plus rien. Mais Laurent a le droit d'avoir son tour. » Les liens de l'incurie tournaient en marotte le liaient plus que jamais, mais il les sentait à présent dans ses membres, dans sa volonté paralysée. Et il se disait chaque dimanche matin, « Il faudrait !» C'est un grand supplice parfois que de se dire seulement « Il faudrait. » Élie Mestru prenait en grippe Fanélie, la fidèle cousine Fanélie, l'indolente, la philosophe, celle qui, à l'instar de Diogène, aurait cassé la dernière écuelle de ménage en disant « On peut s'en passer. » C'est la faute de Fanélie. Des chiffons, des tessons, elles sont contentes. Qu'est-ce qu'un homme peut y faire? Nous avons eu du malheur de tomber sur Fanélie. « Ah, Laurence, ma belle, ma chère Laurence, ce que la vie aurait été avec toi !» Au profond du cœur, la source scellée et cachetée de l'ancienne douleur se rouvrait. Le flot amer s'en échappait à gros bouillons. « Rien à faire, c'est trop tard, il faut muser comme je suis. » Il essayait de se représenter une demeure neuve, pleine de vaisselle neuve et de linge neuf. Quand il s'y logeait en esprit, il aurait préféré être dans son cercueil. Car alors, il faudrait faire peau neuve. Et ses idées allaient tout de suite aux détails de toilette, aux affreuses habitudes de négligence personnelle qu'il laborait et chérissait à la fois. L'impasse, c'était l'impasse en effet pour le père et pour le fils. La fin d'octobre était marquée pour le village de Fontfrêche par une célébration dont le charme et l'importance ne s'atténuaient point avec sa répétition. c'était la vente de charité annuelle coïncidant avec la foire. Une grosse foire où il y avait du bétail, des choux, des broderies de cingales et, dans la salle du presbytère, les objets les plus variés s'étalaient sur de longues tables pour être vendus au profit des soupes scolaires, du dispensaire médical et d'autres œuvres locales ou lointaines. Les divers comptoirs étaient tenus par des jeunes filles de la paroisse. Madame Liumenet présidait au gigantesque samovar d'où coulait un fleuve de thé inépuisable. On vendait des gaufres à la crème qui, par procession de corbeilles odorantes, émergeaient sans cesse d'un sous-sol où des dames spécialistes les confectionnaient. Aucun paysan, aucune fermière ne quittait la foire sans avoir mangé des gaufres et laissé une pièce blanche dans la sébile des vendeuses. Il n'était pas d'exemple que la dame du château eût omis d'être à fond fraîche pour cette date et d'ajouter une contribution assez importante au total des bénéfices de la journée. Cependant, on était à la veille de la foire et Madame Louis Champieux, absente depuis la fin d'août, n'était pas rentrée. Elle avait écrit deux ou trois fois, carte postale illustrée, le minimum. Elle assistait aux vendanges à Lugano. Des amis l'entraînaient à Venise. Elle rentrait par le Tyrol. Elle s'arrêtait à Zurich. Madame Sébastien Champieux avait marqué sur son calendrier la date du départ de sa belle-mère et maintenant, chaque matin, elle calculait en frémissant. 3 jours fin août, 30 jours en septembre. Nous sommes le 26. La malheureuse aura oublié ses 3 jours fin août. Elle compte sur les 31 jours d'octobre. Mais si elle n'est pas rentrée le 28, elle aura dépassé le délai. Alors, nous aurons le droit pour nous, incontestablement. Il faudra bien que Sébastien sorte de ses pantoufles, se montre un homme, enfin. N'y tenant plus, le 28 au matin, Madame Sébastien Champieux mit son chapeau rond garni de rubans bruns, sa jaquette ordinaire, et se dirigea vers la malle tournée sans en rien dire à personne. Il se trouva que c'était de nouveau le jour des pains pour Madame Dupommier, qui prenait ses précautions en vue des solennités auxquelles elle désirait assister pour entendre, si possible, un peu ce qu'on dirait. Madame Sébastien frappa à la porte de la cuisine, entra sans attendre de réponse. « C'est inutile !» dit Madame Dupommier d'une voix forte quand elle aperçut la visiteuse et sans remuer d'une ligne sa tête appuyée à la paroi entre ses appliques. « C'est inutile, je ne peux pas causer, j'ai mes pains !» « Rosanne est sortie ?» demanda Madame Sébastien. « Je vois bien que vous remuez les lèvres, mais je n'entends pas, c'est inutile !»« Je venais vous demander seulement si ma belle-mère rentre aujourd'hui. » J'ai un petit cadeau de poire à lui envoyer pour son retour, persista Madame Sébastien. Si c'est important, écrivez sur l'ardoise, dit la sourde. Mais au même instant, Roseanne entra, rapportant un petit panier de pommes du verger. Elle ne s'éloignait jamais beaucoup le jour des pains. Il suffit que je tourne le dos, dit-elle. « Je n'ai pas fait de mal à votre mère, » dit Madame Sébastien avec un petit rire agressif. « Tiens, vous cueillez déjà les rainettes brunes. Il vaut mieux les laisser sur l'arbre jusqu'au 15 novembre. »« Sauf si on désire en manger, » répondit Roseanne en étalant ses pommes sur la table. « Je venais vous demander des nouvelles de Madame Clotilde. A-t-elle fixé la date de son retour ?»« Nous n'avons rien reçu depuis samedi dernier. » dit Roseanne après avoir avancé une chaise à la visiteuse. « C'est bien étrange » fit-elle en hochant la tête. Madame Champieux n'avertit jamais longtemps à l'avance. À quoi bon? Tout est prêt pour son arrivée. Elle prend une voiture à la gare. Une demi-heure après, elle est chez elle. « Oui, je sais. Ce n'est pas vous qui me renseignerez sur les habitudes de ma belle-mère, Roseanne. » « Mais je voudrais lui envoyer des poires à point. Vous ignorez vraiment si elle rentrera ce soir ?»« Elle rentrera sûrement, » affirma la jeune fille. « Vous voyez bien que vous le savez. » Madame Champieux est partie le 29 août. Il est donc évident qu'elle rentrera le 28 octobre. Mais nous y sommes, au 28 !» s'exclama Madame Sébastien. Précisément, c'est pour cela que je dis que Madame Champieu rentrera certainement aujourd'hui. Vous auriez tort de vous inquiéter, ajouta-t-elle, ayant l'air malicieusement de chercher son mot. Je ne m'inquiète pas, s'écria Madame Sébastien assez sottement, car elle était maintenant tout à fait en colère. Pardon, alors, je le croyais, fit Rosanne avec le plus grand calme. Madame Dupommier s'agitait un peu. Sa fille alla à elle, lui rajusta soigneusement le coussin sur lequel s'appuyait sa nuque alourdie, lui sourit et fit un certain signe convenu en croisant un index sur l'autre, ce qui signifiait « Je te raconterai plus tard ». Mais Madame Sébastien n'avait pas encore démasqué toutes ses batteries. Elle demanda un verre d'eau et, tout en buvant à très petites gorgées, car elle n'avait pas du tout soif, elle regardait autour d'elle cette jolie cuisine, fourbie, ensoleillée. « Comme ce ménage est bien tenu, dit-elle, autant ma belle-mère est privilégiée de vous posséder maintenant, autant elle sera malheureuse quand elle devra vous perdre. » À ce propos mystérieux et invitant, Rosanne ne répondit rien. « Car elle vous perdra immanquablement le jour où vous vous marierez, Rosanne, poursuivit Madame Sébastien. « Je vous prépare déjà mon petit présent, ajouta-t-elle d'un ton folâtre. Ne le préparez pas trop tôt, les modes changent, répondit Rosanne de son grand air sérieux, tandis que ses cils foncés battaient sur ses prunelles grises. Oh, la mode n'aura pas le temps de changer d'ici là. D'ailleurs, à quoi bon attendre? Vous êtes plus pressé que moi, fit Rosanne, cette fois avec une intention tout à fait marquée. Ah ah, dit Madame Sébastien en essayant de rire. Pourquoi serais-je pressée? C'est ce que je me demande. Mais cette femme était comme un traîneau sans frein sur une pente, incapable d'arrêter son train de casse-cou. N'est-ce pas, Madame Dupommier, fit-elle en se tournant vers la mère, n'est-ce pas que Rosanne doit songer à se marier? Elle élevait tellement le timbre déjà aigu de sa voix que deux ou trois syllabes percèrent l'épaisseur des pins. « Se marier? Qui se marier ?» demanda la sourde. « Votre fille !» cria Madame Sébastien, pointant son doigt vers Rosanne, afin qu'il n'y eût pas d'erreur. Alors Madame Dupommier redevint sourde totalement. Elle ferma même les yeux pour ne pas voir les gestes. Madame Sébastien, comprenant enfin qu'elle gâtait son jeu, prit un air de sentiment. « Les mamans sont toutes les mêmes, fit-elle, quand on leur parle de marier leur fille. Écoutez, Rosanne, dès que ma belle-mère sera rentrée ou qu'elle vous aura prévenu de son retour, faites chercher mon petit cadeau de poire, voulez-vous? Comme cela, je serai tranquille. » « Je le ferai certainement, dit Rosanne, mais vous pouvez envoyer vos poires dans l'après-midi, car Madame Champieu rentrera certainement ce soir. » « Oh, la pauvre femme » exclama-t-elle dès que cette visiteuse agitée fut partie. « Rien ne lui manque. Elle a un brave mari, un peu flasque, c'est vrai, des enfants, un ménage, une belle maison. Et tout ça ne lui est rien parce qu'elle ne demeure pas au château. Moi, j'appellerais cela une manie. Folie des grandeurs. Et cela lui empoisonne l'existence. À nous aussi, d'ailleurs. » « À qui veut-elle te marier ?» demanda Madame Dupommier quand sa fille, un peu plus tard, l'eut débarrassée des pains et de leur emballage. « J'entends pas mal quand j'ai les oreilles encore chaudes. Mais dépêche-toi » « Elle n'a nommé personne, dit Rosanne, qui devint rouge cependant. « Non, mais elle pensait à quelqu'un, fit la mère, dont les yeux noirs et cernés, dans sa petite figure blanche, s'agrandirent d'inquiétude et d'attention intense. « Voyons, Rosanne, dis-le-moi franchement, à moi qui n'entends pas ce qu'on chuchote. Est-ce que, dans le village, on parle de toi et de Laurent Mestru? Parce que, vois-tu, ça n'est pas possible, ce mariage-là, ça n'est pas possible. Voyons, Rosanne, est-ce possible? Veux-tu que je finisse mes jours sur ce fumier? C'est un fumier que leur maison, un fumier. » Sa voix monta peu à peu et finalement se brisa.
« Non, maman, non, ce n'est pas possible en effet !» dit Rosanne, qui vint s'asseoir auprès de sa mère et lui prit les mains, et se pencha pour lui parler de plus près. « Je reconnais que ce n'est pas possible. Mais, de notre côté, Laurent ne peut pas quitter son père. Ils sont attachés l'un à l'autre, comme toi et moi. Tu comprends ?»«
Oui, oui, je comprends. »
Elles étaient là, un petit groupe touchant et tendre, tout baigné dans la poudre d'or du soleil, sur un joli fond de tableau hollandais minutieux et brillant, deux humbles femmes qui signifiaient la douceur du foyer, mais aussi son esclavage.
« Il est écrit dans la Bible, reprit Madame du Pommier, que l'homme quittera tout pour s'attacher à sa femme. »
Rosanne sourit comme on sourit aux petites bêtises puériles d'un enfant.
« Il y a cas et cas, » dit-elle.
Puis elle mit sa tête sur l'épaule maternelle et son bras autour de la taille un peu courbée de la frêle vieille femme.
« Laurent Mestru pourrait venir demeurer avec nous, » persista Madame du Pommier. « C'est un brave garçon, je n'ai rien contre lui. Ce sera même un beau parti plus tard. »«
Voyons, maman, ne dis pas de ces choses-là !» fit Rosanne, se redressant et regardant sa mère en face d'un air de reproche.
« Je ne dis que la vérité. Il n'aurait qu'à avoir un peu de caractère, ce garçon-là, brusquer les affaires. Dire à Élie Mestru, « J'en ai assez d'être la risée du monde, je m'en vais. » Il viendrait ici, il verrait son père tous les jours. Il continuerait à travailler au coin du coin. Madame Champieu serait très contente d'avoir un homme dans la maison. »
Rosanne, avec un petit sourire triste et ironique, songeait aux fils nombreux qu'on tirait de tous côtés pour la faire mouvoir, comme si elle eût été une simple marionnette articulée. Elle discernait fort bien leur complexité. Elle s'amusait de voir Madame Sébastien et Myriel tirer de toutes leurs forces, chacune à soi et en sens contraire.
« Madame Sébastien veut que j'épouse Laurent et que je quitte le château, et qu'ainsi notre pauvre dame reste à sa merci. Myriel veut que j'épouse un autre garçon, probablement François Denizet, pour qu'elle ait le champ libre avec Laurent, qui la prendrait de dépit, croit-elle.
Voyez-vous cela ? Une jolie fille qui se contenterait d'être prise par dépit et faute d'une autre ?
Enfin, chacun son goût. Tout cela ne change rien à nos difficultés. Je ne saurais amener ma mère dans la maison Mestru, même si je consentais à y entrer moi-même. Et Laurent ne peut pas quitter son père. Il me l'a dit clairement. Son père est un homme qui a été brisé par le chagrin, un homme qui n'est plus tout à fait normal. Je comprends qu'il y ait de la tendresse et de la pitié, comme pour un malade, dans le sentiment du fils pour le père. Et pour rien au monde, il ne lui manquerait de respect. C'est comme un mur. Oui, il y a un mur. Et Laurent ne peut pas plus que moi sauter par-dessus. »
Rosanne restait là, les yeux fixés droit devant elle, immobile, perdue, lointaine. Sa mère la regardait, attendant de voir ses lèvres remuer.
« C'est dur, bien dur !» dit enfin la jeune fille.
Une chaleur brûlante lui montait du cœur à la gorge, ses yeux étaient cuisants de larmes retenues. Il y avait des moments comme cela où tout le fond remuait, bouillonnait, répandait dans les veines une flamme et une fièvre qui couraient partout, où la jeunesse inapaisée qui s'était crue soumise reprenait les armes avec un grand cri intérieur. Madame du Pommier remua.
« Jamais, dit-elle, tu ne me traîneras dans la maison Mestru. J'irai à l'hospice plutôt ou au cimetière. »
Rosanne alors se leva. Elle n'aimait pas que sa mère employât ses moyens. Elle n'aimait pas les scènes pathétiques, elle les évitait. Son devoir, elle était décidée à le faire. Mais elle estimait aussi que les fils et les filles ont le droit de vivre leur vie comme les pères et les mères ont vécu la leur. Elle prenait en cet instant la résolution, au lieu de se laisser acculer dans l'impasse, de chercher tous les espoirs d'en sortir.
« Il faut que Laurent parle à son père, se dit-elle. La seule issue est de ce côté-là. Monsieur Mestru doit changer sa manière de vivre. » En même temps, elle vit la figure sèche, l'œil sardonique du vieux paysan qui, depuis plus de 20 ans, bravait l'opinion, affirmait son droit de vivre comme un pauvre, de s'habiller comme un vagabond et de laisser sa maison lui tomber sur la tête. Et alors, le cœur lui manqua.